Cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 15 octobre 1992.
Petite question. La dernière fois, vous avez montré la différence entre l'opinion. Enseignement de la vérité. Pouvez-vous revenir sur la place d'un maître dans la recherche de la vérité, de la philosophie? Oui, c'est très important de comprendre la différence entre l'expérience, ce qui vient de l'expérience, et ce qu'on entend dire des autres. Ce qu'on entend dire des autres, c'est de l'ordre de l'opinion. Quand je lis Hegel et que j'essaie de le comprendre, pour moi, ce n'est pas la vérité. Donc, c'est une opinion philosophique. Quand je lis Platon et que je vois le mythe de la naissance de l'amour, c'est une opinion. Ça m'enrichit, ça me cultive, ça me donne un point de vue de milieu philosophique. Et quand je fais une dialectique, par exemple, une topique historique, je regarde les opinions. Qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? Quels sont les philosophes qui font la différence entre l'expérience et l'opinion? Quand on Sorbonne, on enseigne la philosophie en voyant uniquement les diverses opinions des philosophes. Est-ce que c'est de la philosophie? C'est une propédeutique. On prépare le terrain, on laboure, on voit les gros cailloux et les petits cailloux. Mais on a besoin de ça, parce qu'on dialogue avec les hommes. Au fond, nous avons toujours deux sources pour la philosophie. Ce que les philosophes ont dit avant nous et notre expérience. Et ce que les philosophes ont dit avant nous prépare, ça noue le problème, ce que dit Aristote. Ça monte des difficultés. Quand je cherche à savoir qu'est-ce que c'est que la substance, qu'est-ce que c'est que la nature, ça m'intéresse beaucoup de voir toutes les opinions des philosophes. C'est une topique historique. La topique historique au début de la philosophie, il ne faut pas en faire de trop. Mais plus on avance, plus on a un estomac de bois, plus il faut regarder l'opinion des philosophes. C'est évident. Avoir toujours devant nous un peu ces différents moments pour philosopher d'une façon plus parfaite. Mais au début, on n'a pas besoin de tellement. C'est pour ça que je ne fais pas de longue topique historique pour vous. Parce que vous vous endormiriez au bout de du dixième cours. Oh, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Ça aurait un avantage, c'est de vous énerver pour chercher avec plus d'intérêt la vérité. Donc l'opinion, c'est ce que vous recevez des autres. Les autres ont plus ou moins d'autorité sur vous. Il y en a qui sont des ennemis. Quelqu'un qui ne nous aime pas porte un jugement sur nous. C'est de l'ordre de l'opinion. Je ne vais pas suivre exactement ce que dit cette personne. C'est de l'ordre de l'opinion. Et j'irai demander à quelqu'un qui me connaît bien, est-ce que c'est vrai? Ce qu'on vient de me dire de moi? Est-ce que c'est vrai? On dit, mais non. Et la correction fraternelle. Dans la correction fraternelle, vous désirez aller plus loin que l'autre comprenne ce qu'il est. Mais ce que vous dites, uniquement au niveau de la charité fraternelle, vous donne une certaine autorité en tant que frère, recherchant la vérité. et vous n'allez pas suivre exactement ce que votre frère vous dit. Ce serait de la bêtise. Parce qu'alors, à ce moment-là, vous donnez à votre frère l'autorité d'un père spirituel. Or, le frère n'a pas l'autorité du père spirituel. C'est pas la même chose. Les liens fraternels et les liens de père. C'est différent. Parce qu'autrement, je sais pas où on irait, vous savez. Si vous demandez l'opinion de tous vos frères, hein. Allez, mon frère, tu me diras exactement ce que je suis. Puis vous recevrez 60 petits avis. Les uns commenceront par vous dire vous êtes quelqu'un de merveilleux. Mais les autres commenceront par les défauts du caractère de chien. Tu vois pas ce que tu es. Mais je sais que profondément, il y a en toi un trésor. Il y a deux types de corrections. Ceux qui commencent par la négation et qui finissent par le positif. Ceux qui commencent par le positif et qui finissent par le négatif. Ordinairement, ceux qui commencent par le positif sont beaucoup plus durs pour l'aspect négatif. Quand vous recevez une petite félicitation de quelqu'un, attention à la queue. Vous allez recevoir un assommoir. Quand quelqu'un vous dit oui, oh, je suis ça, je te le dis parce que je crois bien en effet, c'est vrai. Tu es très terriblement agaçant. Mais je sais, je t'aime beaucoup, tu sais. Au-delà de tout ça, alors vous voyez, l'opinion, il faut essayer de comprendre ce que c'est que la doxa. En grec, la doxa, l'opinion.
Ses écrits. Et comme dit Platon, l'écrit
situation. J'interprète Thomas d'Aquin. Je n'oserais jamais dire ce que je vous dis, c'est vraiment l'avancée de Thomas d'Aquin et tous les autres sont des imbéciles. Je peux dire, dans telle interprétation de Saint Thomas, je ne la suis pas, parce qu'il y a une erreur. Non seulement j'ai le droit, le devoir de le faire, autrement je n'enseignerai pas. Ce serait une abdication. Celui qui enseigne, surtout dans l'Église, au point de vue théologique, l'Église lui donne une autorité. Et quand on enseigne dans un ordre religieux, on a autorité. Chez les dominicains, celui qui enseigne a autorité. Et c'est manifesté de cette manière qu'il a le droit de dire à un étudiant qui ne suit pas, faites la vénia. Le signe qu'il a l'autorité. Bon, on ne le fait pas ici. Hein. Mais on pourrait le faire. Faites la vénia, c'est-à-dire devant tout le monde, montrer que vous êtes en faute. Il a le droit. On considère que celui qui enseigne a autorité, il est maître. Le maître a autorité. Il a autorité dans le domaine de la recherche de la vérité. Pas dans n'importe quel domaine. Dans le domaine de la recherche de la vérité, il a une certaine autorité. Alors, s'appuyer sur lui, recevoir ce qu'il dit, ce n'est plus simplement une opinion. C'est une attente de vérité. C'est donc la confiance et ce que saint Thomas appelle la foi. Je crois en ce qu'il me dit. Saint Thomas souligne que pour pouvoir progresser et atteindre la vérité, il faut au point de départ la foi, pas l'opinion. L'opinion ne me fait pas avancer, tandis que la foi et la confiance que j'ai dans un maître me permet d'avancer. Donc ce que je reçois d'un maître n'est pas seulement de l'ordre, c'est plus que de l'ordre d'opinion. C'est une confiance, une adhésion de foi dans ce qu'il dit, en vue d'atteindre la vérité. Oui, c'est beaucoup plus que l'opinion. J'y adhère. Et si quelqu'un d'autre dit l'inverse, je dirais attention. Moi, j'ai confiance dans cette autorité. Et je m'appuie sur cette autorité. Alors, on verra si vous, vous appuyez sur quoi. Ils appuient sur l'expérience. Ils disent ce qui est dit là n'est pas juste. L'expérience. Alors, à ce moment-là, on revient à l'expérience. Et on est expérience face à l'expérience. Et on voit que telle expérience est vraie. Mais l'induction à partir de cette expérience n'est pas juste. Et on reprend toute la discussion. C'est évident que recevoir un enseignement, on est disciple, on n'est pas encore maître. Être capable d'enseigner, c'est dépasser le stade de la foi humaine, parce qu'on a soi-même refait toute la démarche. On a repris à partir de l'expérience et à partir de l'induction toute la démarche qui était faite. Tant qu'on n'a pas fait soi-même toute cette démarche, on ne peut pas enseigner. Celui qui enseigne, c'est celui qui connaît. Alors très souvent, surtout dans la vie religieuse, on vous donne un ordre d'enseigner. C'est évident. Vous dites, vous irez enseigner à tel endroit. Et alors on dit, oh, mais je connais pas assez. Faites confiance à la grâce. Alors au début, ben, c'est vrai, on enseigne en disant, voilà les autorités sur lesquelles je m'appuie. Et on reconnaît ça. C'est les autorités sur lesquelles on s'appuie. Alors son enseignement est valable. On transmet ce qu'on a reçu en s'appuyant sur l'autorité. C'est tout à fait valable. Mais ce n'est pas encore l'enseignement du maître. C'est un enseignement, vous voyez, de serviteur. C'est un enseignement de professeur. On s'appuie sur les autorités. Le maître, lui, a repris tout. officiel. Ici, on vous demande de savoir si vous avez fait un effort d'être intelligent. C'est pas la même chose du tout. Mais retenir les conclusions, ce n'est pas très intelligent. Il y a le fort en thème qui connaît toutes les conclusions. Et il n'a rien compris. Il comprend les conclusions, il sait tous apprises par cœur. Apprendre par cœur les conclusions, ce n'est pas philosophique. Réfléchir et comprendre le passage de l'expérience au principe, c'est philosophique. Voir la différence entre l'opinion et la confiance que j'ai dans un être, c'est philosophique. C'est critique et philosophique. Ne perd aucune distinction entre opinion et foi, confiance dans le maître. C'est un manque de philosophie. Alors c'est la mélasse. La vérité, l'opinion et la confiance sont liées. Donc, distinguer toujours très fort le point de vue de la saisie de la vérité. La foi humaine, fidèle. Il implique la confiance. La confiance en un être. Et puis l'opinion. L'opinion, c'est ce que je reçois d'un autre, qui n'est pas nécessairement un maître. Alors, dans l'opinion, il y aura du plus et du moins. Et je pourrais ranger ces opinions. Quand je lis d'Aristote quelque chose, la substance, c'est la cause selon la forme de ce qui est. C'est le principe selon la forme de ce qui est. Quand Aristote dit ça, quand Platon dit la substance, c'est la déesse qui demeure. Deux opinions. L'une, Aristote. Si j'ai compris que la philosophie aristotélicienne s'appuyait sur l'expérience, j'aurai une confiance plus grande dans cette opinion. Surtout si j'ai choisi Aristote comme un maître. Alors à ce moment-là, cette opinion devient une foi. Au début, c'est une opinion. Parce que vous voyez, quand je dis « je comprends, je considère Aristote comme un maître », oui, mais parce qu'on me l'a dit, je n'ai pas encore fait l'épreuve que c'est un maître. J'ai fait l'épreuve que c'est un maître lorsque, de fait, je n'ai pas compris, mais j'ai eu confiance. Et puis petit à petit, j'ai compris. Je suis passé de la foi à la découverte de la vérité. Et la vérité, c'est de voir si ce que je dis est conforme à la réalité existante. C'est cette conformité à la réalité existante. Donc, l'expérience de cette réalité existante. Donc distinguons bien les trois. C'est important ça pour notre vie, pour notre respiration intellectuelle. Mais au début, quand on commence à faire de la philosophie, il y a un petit coin de lumière qui est la vérité qu'on cherche. Il y a beaucoup d'opinions. Et puis il y a, j'espère, beaucoup de confiance. C'est la différence d'enseigner ici et d'enseigner dans une université. Dans une université, on voit vite, très vite, hein, les étudiants qui ont confiance et les étudiants qui sont là uniquement. C'est des examens. C'est pas la confiance. Ils grattent pour gratter. Et puis, les étudiants qui sont en opposition à cette contrainte, ils vous attendent. Ils sont là comme un examinateur. Aucune confiance, au contraire, un irascible bien développé. Ça se voit tout de suite, non seulement dans l'enseignement, mais dans la prédication, c'est la même chose. On voit son public, on le sent, et on sent qu'il y a le petit révolutionnaire. On a tous en nous, petit révolutionnaire, parce que je vous ai déjà dit, les professeurs, je ne dis pas les maîtres, les professeurs servent à deux choses. Ou on est d'accord, je ne suis pas si bête. Ou on n'est pas d'accord, je vais voir qu'il adore. Et à partir de là, on se fait étudier pour montrer qu'il adore. Donc, le professeur est un excitant des deux côtés. Un éveilleur des deux côtés, positif ou négatif. À ce point de vue-là, c'est bon. C'est la même chose pour quand vous lisez un livre. Vous avez un a priori, vous avez regardé une recension, favorable ou défavorable. Vous avez vu un ami qui l'avait vu d'avant, favorable ou défavorable. Vous avez un a priori. Alors, vous cherchez là où c'est erroné, ou là, au contraire, ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Ça me permet d'avancer plus vite. Vous voyez, comprenez que notre vie intellectuelle implique un devenir. Parce que notre vie intellectuelle implique un devenir, on n'est pas tout de suite dans la vérité. La vérité, c'est un terme qui n'est pas absolu, puisque je ne saisis jamais la vérité totale. L'Esprit Saint nous conduit à la vérité tout entière. Il nous conduit. Mais on a quand même une petite vérité, une petite parcelle de vérité. On se repose, et puis on repart. Et ainsi de suite comme ça. Et progressivement, le domaine de la vérité augmente. On est beaucoup plus libre d'une vraie liberté dans la recherche de la vérité. On respecte les autorités, même si on n'est pas d'accord, on les respecte parce que c'est quelque chose qui nous a aidé beaucoup, qui nous a aidé à avancer. Alors, sur tel ou tel point, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être d'accord sur la vision des principes. C'est ça qui est important. Les conclusions, les adaptations. Ça dépend tellement des circonstances, ça dépend tellement du bagage d'expérience qu'on a eu, sur lequel on a mis une lumière particulière, sur tel point. Alors, je continue le cours. La critique du jugement. Donc, il y a la critique de l'appréhension et la critique du jugement. Et je vous ai dit, c'est très très important de bien voir, je ne reviens pas là-dessus parce qu'on a beaucoup vu ça l'année dernière. Alors, ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, vous le verrez un jour. Et c'est un problème extrêmement important, c'est d'abord de discerner le lien qui existe entre jugement et appréhension. Alors, comprenez qu'au point de vue critique, j'ai conscience immédiate du jugement. Tout le monde, quand vous dites ceci est, Pierre est intelligent, vous savez à peu près ce que vous dites. Ah, ce frère, ce qu'il est intelligent. Ce frère, ce qu'il est séduisant. Ah, ce frère, c'est effrayant. Vous mettez des jugements. Même quand vous dites c'est effrayant, vous mettez tout ce que vous voulez dans l'effrayant. Il m'effraie. Les jugements, on en porte tout le temps. Le jugement en grec, initialement, parce que iudicio, c'est latin, c'est krinein, discerner. Et j'aime mieux ce mot discerner que jugement. Jugement, ça prend tout de suite un sens du tribunal, un peu juridique. On juge en portant une sentence, tandis qu'on discerne ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, c'est différent, c'est un discernement. Le jugement discerne ce qui est vrai, adéquat à la réalité, ce qui n'est pas vrai. Et dans l'opinion, il y a toujours à boire et à manger. Dans toute opinion, il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose de faux. Il faut discerner. Je discerne. Dans le langage français, le discernement est un jugement. Je juge, j'affirme et je nie. Je vois que tout de suite, le jugement implique affirmation et négation. jugement apparaît comme quelque chose de complexe. Et le jugement est complexe. S'il est complexe, il y a donc quelque chose d'antérieur au jugement. Qu'est-ce qui est antérieur au jugement? Ça, c'est très important. C'est quelque chose que je saisis à l'intérieur du jugement. Ne dites pas que avant le jugement, il y a l'intuition. L'intuition est un jugement. C'est un type de jugement. Très immédiate, très instinctive. Les intuitifs vont très vite. Quelquefois, ils vont trop vite. C'est le défaut des intuitifs. Ceux qui ont deux estomacs comme les bœufs. J'attends. Je vais voir. Après le repas, on digère lentement. Quelquefois, on digère tellement lentement que ça devient un peu acide. Alors, c'est un petit peu dur. Il n'y a pas la spontanéité du début. Mais l'intuition est un jugement. Avant l'intuition, il y a donc une appréhension. Et l'appréhension est un acte intellectuel qui est élémentaire et qui est premier. Et le jugement implique plusieurs appréhensions. Mais le jugement n'est pas la somme des appréhensions. C'est ça qu'on a beaucoup de peine à comprendre depuis Occam. C'est Occam qui a dit que le jugement est la somme des appréhensions. Et ça a eu une grosse influence en scolastique, ça. Occam a pesé très lourd sur la scolastique. La scolastique théologique et la scolastique philosophique. Occam a écrit tout un gros livre énorme sur la logique telle qu'il la concevait. Et c'est très net que l'appréhension est une opération séparée du jugement. Et que le jugement est la somme des appréhensions. Ou la séparation. Or, si je suis attentif, je vois qu'il y a quelque chose d'unique dans le jugement qui n'existe pas dans l'appréhension. Et donc, le jugement n'est pas la somme des appréhensions, c'est une autre opération. Et cette opération qui est le jugement implique une opération élémentaire qui est l'appréhension. L'appréhension porte sur les déterminations. On dira de façon technique que l'appréhension porte sur les quiddités. Et le jugement porte sur ce qui est. Vous avez donc tout de suite cette fameuse distinction essence-existence. Le jugement seul porte sur l'existé. Le Tao Einein Anthropo. L'être à l'homme. Et l'appréhension, c'est si l'homme. L'acuité, c'est détermination. Il s'agisse d'une détermination fondamentale, la substance. Il s'agisse d'une détermination accidentelle, la couleur. La couleur des cheveux, c'est pas substantiel. La couleur de la peau, c'est pas substantiel. C'est accidentel. ce qu'est cette réalité en elle-même et pour elle-même. Pierre est un homme. En disant homme de pierre, j'exprime sa cuité, sa détermination essentielle. Si je dis Pierre, étant donné qu'il a les cheveux roux, Pierre, c'est le roux. En identifiant Pierre et roux, je n'exprime pas l'acuité, j'exprime quelque chose d'accidentel. C'est sûr. La signification de roux et la signification de pierre, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Facilement saisissent quelque chose d'original à quelqu'un et identifient cette personne à ça. C'est la connaissance symbolique. On n'identifie pas une forme bizarre. Il a le nez grand. Alors on peut dire, puisque s'il a le nez le plus grand de toute une quantité et de plusieurs générations, on dira c'est le nez. Et on identifiera cette personne avec son nez. Tous ceux qui connaissent comprennent tout de suite. Parce que c'est resté dans la mémoire. Alors vous voyez, comment cuitité exprime quelque chose d'essentiel, tandis que d'autres attributs n'expriment plus quelque chose d'essentiel. Mais je peux chercher la cuitité du nez. Le nez n'est pas la cuitité de Pierre, mais le nez implique une certaine détermination. Tout le monde sait ça. La signification du nez. Donc je peux chercher cette signification de cette qualité particulière qui est le nez. De sorte qu'il y aura une cuidité pour toute détermination. Et c'est ce qui est exprimé dans les 10 prédicaments. Les 10 prédicaments expriment les 10 cuidités de ce qui est. Chacun d'entre nous, nous avons 10 déterminations qui sont données dans les 10 prédicaments. Et chaque prédicament a sa cuidité. Ceci, c'est pour que vous essayiez de comprendre qu'est-ce que c'est que la cuidité. Je cherche la cuidité de la couleur. Je cherche la cuidité de l'homme. Je cherche la cuidité du pied. Et on cherche la signification de la chose. La cuidité, c'est la signification. La signification essentielle. L'appréhension saisit l'acuité. Le jugement saisit la réalité existante. Alors vous voyez que je peux additionner l'acuité. Jamais je ne rejoindrai ce qui est. Exister. L'acuité a un mode abstrait, c'est la signification universelle, c'est un mode abstrait. L'exister a un mode concret. Vous voyez donc que tout de suite, dès que vous analysez l'intelligence, vous avez une première opération abstraite, universelle, et une seconde opération qui est concrète. Qui regarde le singulier. Alors, on comprend très bien qu'un des problèmes fondamentaux de l'intelligence, de la critique, sera de voir comment je passe de l'universel au singulier. Et qu'est-ce qui est connu en premier lieu? Le singulier ou l'universel? Et tout dépendra de la relation que vous faites entre l'appréhension et le jugement. Parce que ça, c'est une question que vous retrouvez partout. Autre manière d'identifier l'abstrait et le singulier dans la philosophie hegelienne et dans la philosophie aristotélicienne. Mais c'est toujours ce problème du concret et de l'abstrait, de l'abstrait et du concret. Est-ce que vous connaissez d'abord l'abstrait ou le concret? C'est pas si commode que ça. Si je vous donnais à réfléchir là-dessus, de me mettre un petit papier doux, un petit papier qui exprime le secret de votre intelligence, est-ce que pour vous, l'abstrait est avant le concret dans votre connaissance intellectuelle? Alors ça avait une grande querelle chez les thomistes, chez les scolastiques. Il y avait d'une part les thomistes, d'autre part les scotistes. Les scotistes disaient que le singulier est connu en premier lieu. Les thomistes disaient que l'universel est connu en premier lieu. C'est très simple. Tout dépend sous quel aspect vous mettez. Si vous analysez l'appréhension à un mode universel, le jugement à un mode concret, ceci est. C'est pas universel du tout, ceci est. Je te donne la main, c'est toi à qui je donne la main. Je donne pas la main à l'homme. Je donne la main à tel homme. J'ai contact avec tel homme. Mais en regardant tel homme, je saisis l'homme. Ah, mais comment saisissez-vous l'homme dans Pierre? Alors vous voyez, c'est toujours appréhension, jugement. L'appréhension est d'une certaine manière antérieure au jugement. Et d'une autre manière, l'appréhension est dans le jugement, est inséparable du jugement. Et on n'existe pas sans le jugement. Il y a donc quelque chose de très curieux, et ceci caractérise l'intelligence humaine. L'intelligence est au-dessus du singulier et de l'abstrait. Elle tient les deux. L'intelligence a un mode abstrait, l'intelligence a un mode concret. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que vous connaissez d'abord homme ou est-ce que vous connaissez d'abord Pierre? Regardez chez l'enfant, selon la connaissance génétique, l'enfant connaît d'abord papa et tous les hommes c'est papa. C'est très curieux. Tous les hommes, c'est bon. Donc, l'individuel est connu avant l'universel. Vous passez de l'individuel à l'universel. Et d'autre part, dans l'ordre de nature, la connaissance de l'homme, la connaissance de l'homme, de la nature humaine, est antérieure à la connaissance de l'individu. Donc, vous voyez, tout dépend si vous prenez un ordre génétique ou un ordre de nature. Et si vous confondez l'ordre génétique et l'ordre de nature, alors vous serez dans la dispute. Scotiste et thomiste. C'est des vieilles querelles, ça, qui ont chargé, qui ont été des poids énormes en scolastique. On passait de querelle en querelle. L'école thomiste, l'école scotiste. Et il y avait des cours qui se donnaient selon l'un et selon l'autre. Et les étudiants se dévoraient après. Alors, je reviens dans le jugement dont j'ai conscience. Je n'ai pas conscience séparée de l'appréhension. C'est à l'intérieur du jugement que je saisis l'appréhension. Et l'appréhension regarde l'acuité. Saisit l'acuité selon un mode abstrait. L'abstraction, je la saisis